Les mots de...
La transformation existence.
Vérité.
Le même et la différence.
La notion de monde. L'être et l'événement, évidemment.
Les mots de...
La science de l'être pur.
Alain.
La poésie. L'être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Les mots de...
En principe, on ne peut pas dire.
Alain Badiou.
Une série en 10 épisodes. Réveil de l'histoire. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Vous vous êtes prêté à l'exercice de voir dans quelle mesure il y avait aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'un événement ou pas qui, d'une certaine manière, serait en capacité de changer le monde. Et donc, vous vous êtes particulièrement intéressé aux révoltes dans les mondes arabes et vous avez défini trois catégories de l'émeute, l'émeute immédiate, l'émeute latente et l'émeute historique. Est-ce qu'on peut revenir sur ces trois catégories qui vous permettent d'identifier si oui ou non il y a événement ?
Oh, je crois que c'est, en fin de compte, une classification assez simple. J'appelle émeute immédiate un soulèvement, une révolte collective, mais qui, d'une certaine façon, ne déplace pas la limite des identités à l'intérieur desquelles elle opère. L'exemple que je donne, je crois, ici, dans le réveil de l'histoire, c'est les grandes émeutes de la jeunesse populaire délaissée dans les banlieues anglaises, émeutes très violentes et qui ont beaucoup impressionné l'opinion publique anglaise, mais qui d'une certaine façon se consument elles-mêmes, c'est-à-dire elles ne transforment pas la situation pour la raison fondamentale qu'elles restent refermées sur elles-mêmes et ne concernent que leur lieu propre, avec d'ailleurs une tendance à détruire ce lieu lui-même, c'est-à-dire à mettre le feu aux institutions locales, à brûler les voitures, etc., dans une espèce de déchaînement destructeur qui, au fond, n'indique pas qu'il faille condamner tout ça, cracher dessus, etc. Non, qui indique simplement qu'il s'agit d'une émeute qui a ses justifications, qui est une protestation contre un délaissement social, une ségrégation, etc. Donc, ils sont justifiés de cette manière, mais qui sont infrapolitiques absolument parce qu'elles ne déplacent pas ni le lieu ni les opérateurs d'identité qui sont en jeu dans cette affaire. C'est pour ça que je les appelle les émeutes immédiates. Voilà. Et alors, ces émeutes immédiates sont une espèce de consommation de soi dans lequel, au fond, l'individu n'arrive pas à stabiliser le devenir sujet, justement. C'est-à-dire qu'il va rester aux lisières de son individualité collectivisée, là, en la circonstance, pendant un moment, et puis ça va retomber parce que, finalement, il n'aura pas émergé une nouvelle possibilité. Ça, c'est ce que j'appelle l'émeute immédiate. Alors, l'émeute latente, c'est une configuration qui m'était venue en observant certains aspects des grandes manifestations en France contre les lois Sarkozy concernant les retraites. J'avais observé qu'au fond, ces manifestations détenaient des possibilités plus radicales que celles dans lesquelles elles restaient, finalement. D'ailleurs, c'est pour ça que je les appelle l'attente. D'ailleurs, j'avais vu localement des tas de possibilités s'ouvrir qui étaient assez... qui aurait installé ça dans une durée, dans une intensité plus grande, mais que pour des raisons X, y compris l'intervention là-dedans de l'horizon électoral, etc., du fait qu'on pouvait espérer que la question serait revue lorsqu'il y aurait un gouvernement d'une autre nature, etc. Toutes ces espérances finalement fallacieuses avaient aussi contribué à ne pas pousser le mouvement au-delà de ses limites classiques, finalement. Et c'est pour ça que j'ai dit que là, il y avait, on était non pas là dans le refus de la possibilité par le fait que les identités n'étaient pas déplacées, mais les identités étaient un peu déplacées, mais on laissait la possibilité comme possibilité, on ne la travaillait pas. Et puis j'appelle émeute historique quand quelque chose est réellement déplacé dans les identités, c'est-à-dire quand quelque chose fait qu'il y a une durée propre, une puissance qui fait qu'il y a un mot d'ordre surgit un mot d'ordre qui rassemble, malgré tout, au-delà des identités coutumières, qui les met en travail et une subjectivité naissante. Et c'était le cas très typiquement en Tunisie ou en Égypte, dans toute une séquence. Ça ne garantit jamais un avenir, cette phase-là, parce que l'avenir, nous l'avons vu tout à l'heure, l'avenir, il demande beaucoup de solutions, de problèmes nouveaux, d'organisation, etc. Mais néanmoins, de même qu'en Égypte, on a vu les Coptes et les musulmans franchir finalement leur séparation ordinaire et travailler ensemble dans le mouvement. De même qu'on a vu en Égypte, en Tunisie, le mot d'ordre Ben Ali dehors, devenir le mot d'ordre de masse populaire qui rassemblait vraiment les étudiants, les ouvriers, les pauvres, les femmes, etc. De même, dans tout ça, on a ce que j'appelle l'émeute historique, c'est-à-dire réellement là, une possibilité historique est ouverte. Une possibilité historique est ouverte. La question de savoir comment elle va être réellement saisie, pratiquée, organisée dans la durée, on a vu que ça n'était pas réglé par l'événementialité elle-même. Ça, c'est des questions politiques qui n'ont pas été complètement résolues.
Mais cette potentialité que vous voyez dans ces révoltes historiques, c'est ce que vous appelez le réveil de l'histoire ?
C'est ce que j'appelle le réveil de l'histoire, oui, par rapport à la thèse selon laquelle l'histoire est finie, qui est une thèse qui a été introduite par les réactionnaires, un penseur américain qui s'appelle Fukuyama, qui était l'idée qu'avec le capitalisme libéral et la démocratie parlementaire, on était arrivé finalement à une espèce de stade final de l'histoire. Et que la seule chose qui allait se passer maintenant, c'était que dans le monde entier, on allait avoir l'organisation capitaliste de la société et l'organisation parlementaire de la vie de l'État et de la politique, et que l'idée d'autre chose était terminée. En fait, il y avait une lisibilité dans les grandes émeutes historiques égyptiennes ou tunisiennes, qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que quelque chose, comme une possibilité d'autre chose, restait latente, restait ouverte, même si la politique de tout cela n'était pas encore complètement inventée.
Quand on fait un peu de politique, on s'aperçoit qu'il faut une certaine patience, beaucoup d'aller-retour dans les discussions pour que quelque chose d'un mot commun finissent par émerger, qu'ils soient partagés. Est-ce que ce quelque chose d'un mot commun que tout le monde partage, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi une idée ?
C'est comme ça que je la conçois. Je pense qu'en définitive, dans tout processus de vérité accompli, c'est-à-dire quand, d'une certaine manière, la possibilité nouvelle ouverte par l'événement a réellement trouvé son sujet, que son sujet s'est montré suffisamment patient, fidèle et obstiné pour que se dégage petit à petit ce qu'il y a de vraiment universel dans cette affaire. Je pense que dans tous ces cas, il y a un moment donné où une idée est en partage, où une idée apparaît comme partagée par tous les acteurs, tous les individus devenus sujets de cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle de grands événements donnent lieu à des manifestes, des proclamations, des déclarations qui sont des déclarations sur les principes mêmes du devenir de la chose. Alors, ces grandes idées, on le sait très bien, elles ont après des noms dans l'histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'art au début du XIXe siècle, ça donne le nom romantisme, qui est un nom flottant comme ça, mais qui en fait est une idée générale de la fonction de l'art dans la société. Quand Marx écrit le manifeste du Parti communiste, il fait du communisme une idée générique qui va animer après la création de l'Internationale et une idée qui va travailler avec des avatars différents jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, je pense que l'idée, elle est sous condition qu'il se passe quelque chose. Mais elle est aussi une espèce de signe de ralliement des subjectivités qui sont engagées dans la procédure de vérité. Et malgré tout, si cette idée est absente ou si elle est devenue trop abstraite ou trop incertaine, la procédure de vérité est affaiblie.
Et c'est un peu ce qui se passe avec l'idée du communisme.
Ah ben ça c'est évident, mais ça c'est parce que, après avoir été une idée programmatique dans Marx, manifeste du Parti communiste, après avoir été une idée organisationnelle, en fait avec Lénine, la création des grands partis communistes, elle est devenue une idée étatique. Mais quand l'idée s'achève en idée de pouvoir, c'est pas bon signe. Parce que l'idée, c'est une idée, l'idée, c'est l'idée d'un processus. C'est l'idée qui guide un processus. Mais l'État, c'est quand même une forme particulièrement immobile. Donc, je pense que ce qui est arrivé au communisme, ça arrive souvent, c'est que il a été étatisé et mortifié dans cette étatisation. Progressivement, pas tout de suite, mais progressivement. Et la relance de l'idée suppose de revenir à sa signification plus originelle. Mais vous savez, c'est la même chose dans l'art. Dans l'art, vous avez des grandes révolutions artistiques, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'elles sont académisées. C'est-à-dire que on peut le suivre très bien. Si vous prenez le cubisme année 1912-1913, Picasso et Braque à leur début, c'est une véritable révolution picturale. Et une révolution picturale qui crée quelque chose, qui crée une nouvelle universalité de la perception artistique. Mais vous avez des cubistes des années 30 qui sont des académiciens qui gardent le cubisme comme une en conserve. Hein. Et alors là, on voit bien que, en tant que tel, c'est une catégorie artistique qui est morte. Provisoirement. Donc, l'idée, en effet, c'est un être vivant. Hein. Elle a un destin, elle a une naissance, elle a une force, et puis, à un moment donné, elle peut s'officialiser, se confondre avec une institution. Et donc, il faut travailler à sa redécouverte. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le communisme, c'est une idée qui doit être réactivée un peu en revenant vers sa signification la plus originelle. Et c'est ce que je dis souvent, je pense que la situation mondiale est aujourd'hui plus proche des années 1840 que des années, que du début du XXe siècle même. Plus proche des années 1840, c'est-à-dire qu'il faut réinventer les protocoles de l'émancipation en faisant le bilan de ce qui s'est passé, et l'idée communiste fait partie de ce travail de redémarrage, de renaissance.
Alors Alain Badiou, vous qualifiez aussi ces séquences, disons, comme parfois des séquences intervallaires entre le moment où il y a événement et puis le moment où il y a une contre-réaction à cet événement, ou en tout cas il n'y a plus d'événement, et puis ensuite le retour d'événement, ce qui veut dire tout de même que vous avez une approche du monde qui est une approche métastable. C'est-à-dire un monde où sa stabilité n'est qu'éphémère.
Oui, absolument. Je pense que la stabilité et le figement ou le retour du monde dans une distribution fixe de ses identités n'est jamais le dernier mot de l'affaire. D'ailleurs, tout monde est exposé à son instabilité, l'histoire continue, et si nous sommes entre une forme périmée de la conscience et une forme neuve de la conscience, il faut bien se dire que la forme neuve surgira quand même.
Donc voilà. Nous sommes, selon vous, dans une période intervallaire.
C'est ce que je pense que nous sommes depuis les années 80.
Dans une période intervallaire, nous pouvons nous retourner et voir quelque chose du bout de la fin de la période qui précède, mais comment pouvons-nous voir le début du commencement de la période à venir ?
Nous pouvons le voir tel qu'il se présente toujours, c'est-à-dire dans un mélange entre une fermeté de conviction que ça va arriver, un bilan du passé pour qu'est-ce qui a été sa faiblesse, sa force et sa faiblesse, et aussi des expériences locales, particulières, limitées, qui sont comme une sorte de promesse dispersée.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Les mots de...
En principe, on ne peut pas dire.
Alain Badiou.
Une série en 10 épisodes.